BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Salut à tous, merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous, et je suis très heureux de vous retrouver, que ce soit en audio, en vidéo, à la radio, sur votre ordi, sur votre smartphone. Bienvenue, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end. Vous le savez, le samedi et dimanche sur BFM Business, sur YouTube bien sûr, et je le disais, en audio sur les principaux agrégateurs de podcasts. Avec, pour De quoi je me mêle, cette semaine, tout à l'heure on va rentrer dans le dur, on va parler fibre optique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de connexions fibre optique que d'ADSL hein, en France. C'est une bonne nouvelle avec ce plan très haut débit qui est en train d'être développé en France. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs technologies fibres? On a du 1 gigabit à la maison, mais on peut monter jusqu'à 2 gigas, jusqu'à 10 gigas. Comment ça marche tout ça? Eh bien, Lionel Paris a enquêté et va tout nous expliquer. Et va nous expliquer aussi les différences qu'il y a entre chaque opérateur et comment bénéficier de ces débits monstrueux à la maison. Vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Il faut vraiment être passionné et accroché. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout cela. Sur Twitter notamment. Encore une fois, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Anthony Morel, mesdames, messieurs, pour décrypter l'actu tech de cette semaine. Salut Anthony.
Salut François, salut tout le monde.
Ah oui, je suis très heureux de te retrouver, c'est pour ça et je le...
Mais j'entends ça, mais je reviendrai. Hein. Franchement, là, quand on a un accueil comme ça, on est toujours très bien accueillis dans De quoi je me mêle.
Écoute, c'est tout à fait normal. Merci d'être là toutes les semaines pour commenter l'actu. Anthony, qu'on ne présente plus, que vous retrouvez le week-end, la semaine, le matin sur BFM Business, la semaine entre midi et deux chez Estelle Denis, sur RMC Story, sur RMC, bien sûr, et puis un petit peu partout, et notamment dans De quoi je me mêle. L'actualité de la semaine, on va évoquer plein de choses. Est-ce qu'on aura un Vision Pro à Noël en 2026? Parce que 2023, c'est mort. 2024, n'y comptez pas. Visiblement, c'est compliqué de fabriquer ce masque d'Apple. On parlera aussi des problèmes de ce téléphone pliant de Google qui se casse un peu trop, qui se plie un peu trop. Ouais. Visiblement, c'est pas très bon. On parlera de Netflix, de YouTube aussi tout à l'heure. Et puis, Anthony, tu veux nous parler aussi d'une montre connectée vivante.
Ouais, c'est ça. C'est pas celle que je porte là, hein. Ouais. Je te rassure, c'est un prototype, mais c'est assez dingue.
Il y a un blob à l'intérieur.
Ouais, il y a un blob, exactement, un blob à l'intérieur.
Qu'est-ce et ça que tu bois le week-end? Quelles mais sont tes dernières drogues?
Écoute, je sais que ça peut sembler étonnant, mais peut-être que la technologie de demain, ce sera un mélange de technologie et de biologie, wow, de techno et d'organique. Bon, y a des films d'horreur et de science-fiction qui commencent comme ça aussi, hein. Tu sais,
ouais, c'est vrai.
Le blob qui vivait dans ma montre.
On en parle tout à l'heure, ça s'annonce passionnant. Mais pour débuter, sans doute l'actualité la plus, on va dire, importante de cette semaine, parce que c'est vrai que c'est quand même une annonce forte. Meta serait sur le point, eh bien, d'inonder le monde, en tout cas peut-être pas pour l'instant l'Europe, mais en tous les cas les États-Unis pour débuter et d'autres pays, eh bien, d'un concurrent de Twitter, ça y est, c'est officiel.
C'est officiel et c'est parti puisque l'application a été lancée. Alors là, on est jeudi quand on enregistre. Elle vient d'être lancée.
Elle vient d'être lancée.
Il y a quelques heures, officiellement, aux États-Unis, dans une centaine de pays, pas encore en Europe. On va vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc, une application. Alors, c'est étonnant parce qu'on savait que c'était dans les tuyaux, hein, cette application, ce concurrent de Twitter. En gros, Facebook qui veut lancer son Twitter, c'est un peu ça. Mais on ne pensait pas que ce serait à ce point un clone de Twitter, parce que c'est ça quand même qui est frappant, c'est du copier-coller. On est en période de résultats du bac, là si l'élève Zuckerberg avait dû être noté par un prof, c'était 0 sur 20 pour copiage et honté sur son camarade Elon Musk, quoi. C'est vraiment ça, parce que vraiment cette application, elle reprend les codes graphiques. Alors, c'est un mélange, pour être précis, entre Instagram et Twitter. Ouais. C'est-à-dire que tu as des codes graphiques.
C'est lié à Instagram, d'ailleurs.
C'est lié
hein,
à Instagram,
crois, hein.
Absolument.
Il faut quand même le signaler.
Ce qui est une énorme force, d'ailleurs, pour Meta. Mais sur la partie graphique, sur la forme, ça ressemble un petit peu à Instagram, mais surtout, ça ressemble à Twitter, dans le sens où c'est un réseau social, donc où on va publier du texte, des courts textes, hein, de quelques centaines de caractères. On va pouvoir les liker, on va pouvoir les repartager. Mais j'allais dire, même le logo du repartage, tu sais, avec les deux petites flèches qui se font face, c'est le même. Alors, on peut pas dire...
C'est un peu honteux,
non, mais
quand
tu vois,
même,
le truc, c'est incroyable.
Franchement.
Alors, je sais, on va pas faire les vierges effarouchées.
Non.
Dans le domaine des réseaux sociaux et de la tech, c'est un grand classique.
C'est un grand classique,
tout le monde copie tout le monde, mais il y a un moment, c'est quand même... Enfin, il s'est pas foulé, quoi. T'as envie de te dire, il s'est quand même pas fatigué. Et donc, on va retrouver un autre mot. Hein. On peut pas dire retweeter. Je crois que c'est les reposts, ils appellent ça sur cette application Threads, qui est pas facile à prononcer en
c'est
français.
C'est rigolo d'ailleurs qu'il n'y ait pas de brevet déposé par Twitter, parce que Twitter pourrait attaquer mille fois en fait cette application.
Ouais, mais je sais
pense
pas.
Qu'il doit avoir une espèce de standardisation de certaines fonctionnalités mais... qui sont inattaquables,
oui.
À moins que Twitter dégaine une batterie d'avocats là bientôt. Hein.
En fait, je sais pas si c'est une bonne question en termes de propriété intellectuelle. Je sais pas exactement comment ça se passe.
Ça ressemble beaucoup quand même à Twitter.
Ça ressemble énormément, mais quand tu regardes à chaque fois que tu as un réseau social alternatif qui se crée, en général c'est dans ce sens-là que ça se fait, tu as un petit réseau social alternatif qui arrive sur le marché et tu as soit Facebook, soit Twitter, soit Instagram ou soit TikTok qui va repomper la fonctionnalité. On pourrait dire la même chose de Facebook qui a copié TikTok avec ses Reels par exemple.
Enfin,
je veux dire, c'est un grand classique en fait. Hein. Vraiment,
ou
ça
même Snap.
Tout le temps. Ou Snap.
On se rappelle que voilà, Snap avait été copié par
Absolument.
Instagram. Hein,
dès qu'il y a une fonctionnalité qui marche, forcément les gros réseaux sociaux en ayant l'avantage de leur force de frappe se disent ah bah oui c'est pas mal ça, on va l'intégrer et on va tuer le concurrent. Il y avait aussi tu sais le fameux BeReal, l'application française qui a été copiée, enfin je crois, est-ce que la fonctionnalité est déjà disponible ou en cours de préparation sur Instagram, mais en tout cas cette idée de pouvoir prendre deux photos en même temps en instantané à certains moments de la journée, donc voilà, dès qu'il y a un truc qui marche, ils le copient, et là c'est vrai que du coup le résultat est assez flagrant. Alors avec la force de frappe quand même de Meta, là au moment où on se parle, l'application est sortie depuis quelques heures, et les premiers chiffres qu'on a, c'est en 4 heures, il y a déjà 5 millions d'abonnés. Ce qui est énorme parce que, comme tu le disais, c'est lié à Instagram.
Mais oui.
Donc du coup, dès que tu t'inscris, tu vas voir tous tes followers Instagram, tu vas pouvoir te réabonner à eux, ils vont pouvoir se réabonner à toi. Et ça, c'est énorme quand tu lances un réseau social. Évidemment, c'est l'effet boule de neige que n'ont pas les autres concurrents de Twitter. On peut penser à Mastodon.
Et pour plus qu'il y ait une bonne communication de la part Insta en disant bah, « Venez tester Threads, regardez, c'est très simple, vous n'avez qu'un bouton à cliquer, vous téléchargez l'appli, c'est réglé. » Paf, ça fait un abonné supplémentaire.
C'est exactement
ça. Et ça n'a pas de prix.
Bah oui.
Instagram, aujourd'hui, c'est des centaines de millions d'abonnés.
C'est énorme.
Donc, imagine s'il y a peut-être 20% de ces gens-là qui téléchargent Threads. C'est ça.
C'est absolument massif.
Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les gens adoptent ce réseau, parce qu'au-delà du fait de s'inscrire, hein, on s'inscrit, toi et moi, à plein de réseaux qu'on n'utilise pas, ça serait intéressant de voir si justement ils trouvent leur intérêt à y revenir
et à
l'utiliser.
T'as tout à fait raison, d'autant que je pense que, on vient de le dire, hein, vraiment c'est une copie de Twitter sur la forme. En revanche, je pense qu'il va vraiment y avoir une différence philosophique entre les deux.
Bien sûr, bien sûr.
Et je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer.
Le ton ne sera pas le même, je pense.
Exactement.
Parce que le ton d'Instagram n'est pas le même que sur celui de Twitter.
Je pense que ce sera beaucoup plus policé sur Threads. Tu auras une modération qui sera beaucoup plus dure. Et c'est quelque chose qui est assumé. En gros, l'idée, c'est de dire sur Twitter... c'est devenu un grand n'importe quoi,
ouais,
hein, globalement.
La poubelle
alors, c'est ça,
de l'opinion.
On peut le voir comme ça, on peut le voir aussi. D'autres diront que c'est un
c'est
endroit
la liberté,
libertarien,
sûr,
on peut y dire tout et ce qu'on veut. Moi, je vais te dire, à titre personnel, alors on peut en débattre, hein. Moi, je pense que je resterai sur Twitter. Je ne suis pas certain que j'utiliserai Threads parce que j'aime bien le ton libre de Twitter. Alors oui, tu
tombes
sur des trucs excessifs, etc. Mais moi, à la limite, c'est ce qui m'amuse. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un truc complètement...
Mais je pense que tout dépend du caractère qu'on a, tout dépend de ce qu'on a envie. Il y a des gens qui sont plus sensibles en fait à des mots durs, enfin à des insultes, etc., etc. Et je pense que il y a peut-être une frange de la population qui se retrouvera plus compatible avec un réseau social plus léger, bienveillant.
Ouais, absolument.
Finalement, bon après tout dépend aussi de tes followers, hein, parce que c'est ça aussi Twitter. Hein, tout dépend qui tu suis et ce que tu y fais. Hein.
Oui, alors aussi avec une autre petite différence quand même entre les deux réseaux sociaux, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que sur Twitter, tu sais, tu as cette distinction, t'as limite, t'as deux fils en fait. T'as le fil avec ce que disent tes followers et tu as le fil général où on va te proposer des choses qui potentiellement peuvent t'intéresser. Alors que sur Instagram, visiblement, sur Threads, t'auras un seul. En gros, t'auras l'algorithme qui te proposera des trucs et c'est à peu près tout. Donc cette la bulle de filtre, on va dire, tu seras vraiment dans une bulle de filtre, peut-être encore plus que sur Twitter. Mais ça va être intéressant de voir, je pense, ces deux modèles qui vont s'opposer.
Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt de tester ça en Europe.
Alors c'est ça, parce que on vous parle de tout ça. On n'a pas pu le tester, malheureusement. Il y a très peu d'Européens pour l'instant. Alors, je sais que certains ont réussi à bidouiller.
Via des VPN,
etc. C'est compliqué hein, pour l'instant. Et en théorie, nous, les Européens, on n'est pas censés y avoir accès pour des raisons réglementaires, en fait, hein, tout simplement à cause du RGPD, enfin, les fameuses protections des données. Alors, parce que pour le coup, Threads, alors tu vas me dire, on n'est pas à ça près. Hein, maintenant, de toute façon, Facebook et les autres réseaux sociaux, ils ont tout sur nous. Mais apparemment, c'est un aspirateur à données, mais de folie. C'est que vraiment, quand tu télécharges le truc, c'est, tu sais, tu vois tout ce à quoi accède l'application, mais genre, c'est limite, tu vends ton âme à Mark Zuckerberg. Quoi.
Pire que TikTok ?
C'est un truc de fou. Bah, visiblement, ils peuvent accéder, par exemple, à tes informations financières, tes informations médicales.
Mais tu l'autorises ou pas, ça ?
Bah, tu dois autoriser si tu...
Si tu veux utiliser l'application. Ouais, ouais, c'est chaud quand même.
Donc, ça va quand même loin, tu vois.
Enfin, pourquoi les informations médicales ?
Bah, pourquoi ? J'imagine pour te cibler avec de la publicité de manière extrêmement précise. Hein, c'est juste ça. Après, je... Mais bon... Tu me diras, voilà, quand tu télécharges Facebook, TikTok, Snap...
T'es pas loin. Hein.
T'es pas loin de ça, de toute façon. Donc, on va pas, là encore, s'offusquer pour s'offusquer. Mais en tout cas, du point de vue de la réglementation européenne, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont même pas donné de date, hein, pour l'Europe. Ouais. Hein. Ils ont dit, voilà, on se lance dans 100 pays... ils n'ont pas parlé de l'Europe.
On verra.
On va voir comment la réglementation évolue. Donc, je ne sais pas si on y aura accès à un moment. Est-ce que peut-être c'est un coup de bluff, tu vois, du genre, ils font... bon, on n'en parle pas de l'Europe, puis peut-être à un moment ils vont se manifester. Mais hey, nous alors, on ne pourrait pas l'avoir l'application ? Ah bah non, mais les gars, attendez, votre réglementation elle est trop stricte, et puis peut-être que ce sera une arme de négociation pour eux, j'en sais rien. Mais je sais pas, écoute, moi je suis curieux, j'aimerais bien la télécharger cette application et puis l'utiliser, quoi. Toi aussi, j'imagine. Mais c'est intéressant, ce qui est intéressant surtout, je trouve, d'un point de vue stratégique, c'est de voir à quel moment Zuckerberg choisit de lancer ça. On parlait la semaine dernière...
En pleine déconfiture de Twitter, des moments où ça commence à être chaud.
Au moment, en plus, où tu sais, ils veulent se mettre sur la figure, là, ils ont cette fameuse idée de duel, là, je pense qu'ils vont avoir des vrais...
On en parlait la semaine dernière, on a des news ou pas ? On sait quand est-ce qu'ils vont se...
Il n'y a pas plus de dates, mais on a vu les premières images de Musk qui s'entraîne avec Georges St-Pierre, donc ce fameux champion de MMA. Ils ont fait une séance d'entraînement, visiblement, ça s'est hyper bien passé, ils étaient très contents d'avoir bossé l'un avec l'autre, donc voilà, Musk a l'air de prendre ça peut-être plus au sérieux qu'auparavant, donc je sais pas, ça a l'air d'avancer, on verra ce que ça donne. Mais enfin... Oui, tu disais, effectivement, là, Twitter est dans un moment très compliqué. Tu as vu, il y a quelques jours, et peut-être que vous l'avez constaté aussi le week-end dernier, il y a eu des ralentissements sur Twitter. Il a décidé quand même de limiter le nombre de tweets...
Qui s'affichaient.
Exactement, et qu'on peut lire par jour. Donc maintenant, c'est 1000 tweets par jour maximum si tu n'as pas de compte payant. C'est 10 000 si tu as un compte payant. Et... En gros, là, ils sont en train de créer vraiment un Twitter à deux vitesses.
Si t'as un Twitter freemium, quoi, en quelque sorte.
Ouais, c'est ça. Et même, j'irais même plus loin que ça. J'ai l'impression qu'au début, l'idée, c'était un peu ça. C'était de dire, si tu prends la version payante, t'auras des petits perks, des petits avantages que n'ont pas. Mais là, je pense qu'il faut voir le truc à l'inverse.
À l'envers. C'est-à-dire, si tu prends pas la version payante, tu vas avoir un Twitter dégradé.
Exactement, c'est ça.
Et c'est pas pareil, t'as raison.
C'est pas pareil. Et je trouve que ça va peut-être devenir problématique pour le coup.
On enchaîne avec le Vision Pro d'Apple. On en a beaucoup parlé. Visiblement, le Vision Pro est une tannée à fabriquer. Parce qu'on le sait, c'est un produit hautement technologique. Et visiblement, Apple ne va pas arriver à fournir autant de modèles que prévu.
Ah oui, c'est ça, parce que c'est une chose de faire une démonstration à Cupertino qui impressionne tout le monde. Et c'est vrai qu'on avait été tous très impressionnés, très clairement. Mais derrière, quand il faut délivrer d'un point de vue industriel, c'est toujours un peu plus chaud.
Et là, surtout avec un nouveau produit, quoi.
C'est ça. Et visiblement, les sous-traitants, donc les nombreux sous-traitants qui travaillent, t'imagines le nombre de boîtes qui bossent sur les différents composants, etc., l'assemblage et tout, disent que c'est un enfer. Mais un enfer, il y a des experts cités par la presse américaine qui expliquent que c'est le produit technologique grand public, le produit d'électronique grand public le plus difficile à fabriquer de l'histoire, toutes catégories confondues. Donc tu vois le truc.
Ça prouve quand même aussi le niveau d'exigence d'Apple qui se lance dans une aventure technologique, commerciale, industrielle folle.
Ouais, c'est vrai.
C'est fou.
C'est
en
vrai.
Fait.
Non, non, mais c'est très spectaculaire de ce point de vue-là. Tu as tout à fait raison. Alors apparemment, il y a deux composants principalement qui posent souci. Ce sont les fameux écrans, tu sais, alors les écrans micro-LED qui sont donc en face de chaque œil. Il y a en fait deux écrans qui sont des petits bijoux de technologie. Sony qui doit les fabriquer normalement.
Je crois que c'est plus que de la 4K. En fait, on a une résolution qui fait que quand vous avez le masque sur votre visage, vous n'arrivez pas à voir les pixels, quoi.
C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est très spectaculaire. Enfin, d'après tous les collègues là, qui l'ont testé, avec lesquels on a pu discuter, on a fait des émissions avec eux, ils nous disent que c'est extraordinaire. Mais à fabriquer pour Sony, c'est très 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 compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est la lentille extérieure, la lentille incurvée. Tu sais, c'est ce qui permet, l'effet waouh venait aussi de là pendant la démo, de, pour des personnes qui sont de l'extérieur, de voir tes yeux quand tu portes le casque.
Bien sûr, ils sont projetés en fait.
Voilà, exactement. Et ça, c'est un composant qui, effectivement, est très compliqué aussi. Et donc, ce que dit l'assembleur, qui est un chinois, hein, donc qui s'appelle Lux, je ne sais plus quoi, c'est une entreprise chinoise qui va, Luxshare, qui s'occupe de l'assemblage du Vision Pro, c'est que jamais ils arriveront à en sortir ce qu'ils voulaient en sortir. L'objectif annoncé, c'était 1 million en 2024, ce qui n'était déjà pas énorme. Hein, c'était vraiment. Et là, ils disent. On fera maximum 400 000.
Wow.
Ça va générer probablement un effet de rareté, ce qui fait qu'ils vont s'arracher. Enfin, très clairement, ils vont les écouler.
Bien sûr. Les 400 000 sont déjà vendus, en fait.
Voilà, ça va partir très, très, très vite.
Après, on ne sait jamais. Hein, peut-être que ces industriels disent ça alors que le produit sort dans 6 mois. Peut-être que d'ici là, ils arriveront à corriger certains bugs, tu vois. Donc,
Non, mais en tout cas, il va falloir qu'ils dépassent ces limites technologiques-là. Parce que je pense que là, pour Apple, l'enjeu, il n'est pas. L'enjeu financier, il n'est pas énorme. Parce que vraiment, on l'a dit.
Mais ils vont perdre des milliards pendant des années.
Voilà, c'est ça.
Mais ils se disent, on est en train de créer une nouvelle aventure.
Ouais, exactement. Mais c'est ça, en fait. Tu as raison, c'est la suite qui compte. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont déjà dans les tuyaux une deuxième version qui serait probablement moins chère, avec des composants peut-être d'un peu moins bonne qualité, peut-être moins encombrants aussi, à voir. Il était prévu, selon les rumeurs, pour fin 2025. Déjà, à cause de ces premiers retards sur le modèle originel, ce deuxième modèle qui serait plus grand public, plus mainstream et qui pourrait pour le coup lancer le marché.
Pourrait être retardé aussi.
Ouais, il devrait être retardé aussi probablement.
On verra. Difficile de se projeter à aussi longue échéance en fait avec Apple, mais on verra bien. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, il va falloir se battre pour en avoir un en 2024. Ça va être chaud quoi.
Voilà, on va prendre les entraîneurs d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg pour aller se battre devant les Apple Store pour en choper un.
C'est clair.
C'est ça.
Ouais.
Google. Un mot sur Google qui a fait l'actualité il y a quelques temps de cela en sortant son premier smartphone pliant, le Pixel Fold. Produit très sympathique, vraiment réussi, sauf que visiblement, fabriquer un pliant, Samsung l'avait goûté il y a quelques années de cela, c'est pas facile.
Non, c'est clair. On pensait qu'on était passé à autre chose. Moi, c'est ça qui me déçoit un peu dans cette histoire, parce que les Pixel, en plus, moi, j'aime beaucoup, c'est vraiment une gamme que j'aime bien, que j'utilise régulièrement.
Très bon téléphone, tu as d'ailleurs un Pixel.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est le téléphone que j'utilise le plus souvent, en fait. On en change assez régulièrement, on teste pas mal de choses, mais en tout cas, j'aime bien parce que la qualité des photos est assez dingue et tout. On se disait qu'avec justement Samsung, Oppo, qui ont déjà un peu essuyé les plâtres quoi, d'une certaine manière sur les écrans pliants, parce que les premiers modèles, tu te souviens, qui étaient vraiment...
Il y avait des youtubeurs ou des journalistes qui avaient arraché aux États-Unis la première la protection de l'écran.
Les journalistes avaient fait un peu n'importe quoi aussi, tu te souviens. Parce qu'en gros, ils avaient vraiment fait des trucs qu'un utilisateur
personne
lambda n'est pas du tout censé faire.
Oui.
C'est ça en fait. Donc du coup, ça avait fait un énorme bad buzz et tout.
Et là, le problème du Fold... Du Pixel Fold, c'est que commence à avoir des problèmes.
Certain nombre d'utilisateurs qui se sont rendus compte que lorsque tu replies le téléphone, il y a des micro-cassures qui commencent à se générer, ce qui est un peu embêtant. En fait, la différence par rapport à ceux de Samsung, par exemple, pour ceux qui ont le modèle en tête, en gros, les Galaxy Flip et compagnie, quand tu les refermes, donc en mode carnet, t'as toujours en fait un petit jour de quelques millimètres entre les deux écrans.
Oui.
Donc ça
qui permet justement d'empêcher que les écrans se cognent.
Exactement.
À chaque fois, parce qu'on peut ouvrir et fermer un téléphone comme ça des dizaines de fois par jour.
Exactement. Ils ont été vraiment conçus pour ça. Et en fait, le Galaxy Fold, celui de Google, lui n'a pas cette limite-là. Et en
le
gros,
Pixel
les écrans.
Fold, pardon. Tu voulais
le
dire
Pixel
du Pixel
Fold.
Parce que le Galaxy, c'est Samsung.
Le Galaxy, c'est Samsung. Le Pixel Fold. Lorsque tu le refermes, les deux écrans s'entrechoquent à chaque fois. Et du coup,
À petit, ça abîme l'OLED.
Ça abîme l'OLED. Alors, tu as des gens qui se retrouvent avec une ligne rose là, qui s'affiche en permanence sur l'écran.
Superbe.
On le rappelle, un téléphone qui coûte quand même 1 800 $, tu vois. Donc, pour ce prix-là, tu ne peux pas avoir ça, en fait.
Non,
vraiment, tu es au-dessus des prix des iPhones. Tu peux exiger la perfection ou en tout cas un truc très, très, très haut de gamme. Et là, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est dommage pour le marché des téléphones pliants parce que on a envie de le voir. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les smartphones pliants, je trouve qu'il y a vraiment un énorme potentiel.
Et je pense que, bien sûr, dans quelques années, ce sera, on va dire, sans doute le standard. En tout cas, l'un des standards de la téléphonie mobile.
Ouais, probablement. Mais du coup, là, ça fait encore un coup d'arrêt. Les gens vont se dire,
tu comprends mieux pourquoi Apple ne sort rien là-dedans, encore.
T'as raison.
Ils doivent tester tous ces trucs-là et attendre le bon moment quand la technologie est mature pour sortir un iPhone pliant. Ça arrivera, c'est certain.
C'est clair.
Mais ils attendent que la technologie soit mature.
C'est ça. je pense qu'ils doivent regarder ça effectivement avec pas mal de circonspection, parce que quand ils voient que, enfin je veux dire, ils savent bien que Google c'est pas des branques, Samsung c'est pas des branques, et que même ces grands groupes technologiques là peinent.
Essuyez les plâtres les gars, ouais, on arrive après.
Débrouillez-vous, faites votre petite cuisine et puis nous.
De temps en temps on en achète un, on démonte, on regarde un peu comment ça progresse.
C'est ça, et après t'auras Zoro est arrivé, voilà c'est Apple qui arrive avec.
Et là ils vont tout exploser.
Ils sont très forts pour ça effectivement, ouais. Mais donc c'est un mauvais point pour le marché des pliants et puis pour la gamme Pixel quoi qui a du mal à s'imposer alors qu'ils proposent des super bons téléphones.
Rappelons que ce Pixel n'est même pas disponible en France.
Non, absolument.
Ça c'est quand même un truc de fou. Ouais. Il n'est pas disponible en France. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que alors soit ils n'arrivent pas en produire assez, soit ils estiment que c'est pas un marché. C'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs, je crois. Ils avaient dit que la France n'était pas un marché assez mature pour. C'est un peu vexant, je trouve.
Oui, c'est arriérés en fait, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Puisqu'on parle de pliant, moi j'ai été bluffé par un smartphone pliant, c'est le dernier Honor.
Ouais.
Je sais pas si tu l'as vu.
Ouais, absolument.
Il est d'une finesse. Ouais. Ils ont réussi à faire. C'est comme un Galaxy Fold en fait, d'accord. Mais le système de charnière est totalement différent. Ils ont réussi à réduire les deux parties du téléphone et on se retrouve avec un téléphone hyper élégant, hyper fin, plus léger. Bravo. Honor. Franchement.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit maintenant, il y a quand même pas mal de concurrence et tout, et du coup, on a même des form factors un peu différents. Enfin, t'as vraiment plein de trucs.
Ouais.
T'as ceux qui préfèrent celui qui se ferme en mode cahier et ceux qui préfèrent
vertical
celui
ou horizontal.
À la verticale en mode Game Boy Advance.
Il y a Motorola aussi qui a sorti un modèle pliant, le Razor nouvelle génération.
Ouais. Et en attendant, les modèles enroulables, etc., qui vont arriver aussi sur le marché et qui, pour le coup, je pense, seront aussi des petites révolutions, parce que pour le coup, là, t'as un effet waouh qui est extraordinaire.
Ouais, ça c'est clair.
Et t'as pas besoin d'avoir justement cette épaisseur qui est encore le problème, c'est que même si ces téléphones sont fins, comme tu disais, les nouveaux modèles, dès que tu les plies en deux, y a un moment où, voilà, tu as le double quand même de l'épaisseur. Donc,
c'est clair. Voilà. Dans l'actu aussi, Tech, un mot sur Netflix. Alors vous le savez, hein, la pub maintenant c'est devenu un standard hein, sur Netflix, en tout cas pour on va dire une offre qui est de plus en plus populaire, hein, qui est à 5,99€, vous avez accès au contenu Netflix, vous payez pas cher, mais en échange, vous avez de la pub. La pub qui devient le nerf de la guerre hein, chez Netflix, ouais. Et ils essaient justement de la repenser, cette pub, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, t'as raison, parce que Netflix, en fait, faut bien comprendre hein, que historiquement, Netflix, ils se sont construits contre la pub, en fait. C'est-à-dire que leur modèle, surtout aux États-Unis...
C'était du premium.
Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu regardes la télé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France encore, t'as de la pub, mais toutes les 5 minutes, littéralement.
Bah oui.
Et donc, eux, ils avaient entre
18 et 20 minutes de pub par heure.
C'est énorme.
C'est pour ça que les séries américaines durent 42 minutes.
C'est ça.
Parce que tu as 18 minutes de pub.
C'est ça. Et du coup, c'est insupportable à regarder. Enfin, quand tu regardes une série à la télé aux États-Unis, c'est vraiment très, très compliqué, quoi. Et donc, ils se sont construits sur ce modèle-là. Et là, récemment, pour les raisons qu'on connaît, pour des problèmes, enfin, des problèmes financiers, en tout cas, pour le fait qu'il faut générer toujours plus de profits et que ils peinent à trouver de nouveaux utilisateurs, ils vont vers un modèle qui propose une offre publicitaire à moindre coût, mais du coup, ils reviennent à ce qu'ils ont combattu au début, c'est-à-dire de la pub. Mais comment est-ce qu'on intègre ça intelligemment pour que l'utilisateur ne soit pas dissuadé de regarder des séries?
Oui, un peu de la pub premium, quoi, en quelque sorte.
C'est
la pub qui te ressemble et qui raconte quelque chose.
Exactement.
Que tu subis moins.
Et pour ça, en fait, ils veulent faire un truc assez malin, c'est transformer leur pub en série, en fait.
Wow.
C'est-à-dire qu'en gros, tu regardes ta série... Et au fil des épisodes de la série, en fait, la pub qui s'intègre dans ces épisodes...
Évolue par rapport à la série ?
Non, évolue elle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la pub, ça va être une série. En fait, okay. Tu vas avoir 15 pubs,
d'accord,
au lieu d'avoir la même pub que tu vas revoir à chaque fois.
Donc la pub
épisode.
Raconterait une histoire.
Voilà, exactement. Donc c'est assez malin. S'ils arrivent à le faire intelligemment, je pense que ça peut être en tout cas un peu moins pénible que de se taper, tu vois, la même pub à chaque fois que tu lances une vidéo, un épisode, tu vas avoir la même pub. Moi, je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin que ça, et on sait bien qu'en utilisant l'intelligence artificielle, tu vas probablement pouvoir avoir des placements produits intelligents même à l'intérieur des séries. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir, je sais pas, des personnages qui sont dans la rue à un moment et tu vas avoir un panneau publicitaire dans la rue et le panneau publicitaire va te montrer une pub à toi qui ne sera pas la même que l'autre utilisateur de Netflix.
Mmh.
Tu vois, et ça va être des moyens de monétiser aussi et de faire de la publicité sans être trop intrusif. Parce que tout l'enjeu, évidemment, c'est pas non plus de nous inonder trop de pubs. Hein. Là, je crois qu'ils se sont limités à
4 minutes,
je crois. 4 minutes, ouais. Je crois que c'est 4 minutes par heure de visionnage.
Ouais.
Ce qui n'est pas beaucoup comparé à la télé.
On est vraiment loin des 18 minutes des médias américains.
Mais c'est vrai que quand tu regardes Netflix, tu regardes pour ne pas avoir la pub non plus. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'ils sont en train de réfléchir à ça, parce que je pense qu'il y a un côté un peu dissuasif quand même, hein, la pub. Voilà.
Puisqu'on est dans la pub, on y reste avec une autre plateforme, YouTube. YouTube qui accélère dans la publicité. Hein. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à YouTube Premium, vous avez de plus en plus de pubs, de plus en plus longues, qui arrivent parfois de manière, on va dire... très bizarre durant des contenus, enfin on l'a tous vécu hein, ce truc-là, et YouTube veut protéger son trésor de guerre, hein, qui est cette pub, et fait la chasse eh bien, à tous les ad-bloqueurs qui empêchaient cette publicité d'être affichée.
Évidemment, sachant que c'est un jeu du chat et de la souris hein, entre les ad-bloqueurs et YouTube, parce qu'effectivement tu as toujours des moyens de contourner, mais bien globalement sûr. Aujourd'hui tu peux utiliser des ad-bloqueurs qui te permettent de pas être soumis à la pub quand tu regardes YouTube. Alors YouTube évidemment veut remettre ça en question parce que c'est leur modèle économique hein, tout simplement qui est touché au cœur. Et donc là ils réfléchissent à une solution un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a un moment ils réfléchissaient à bloquer tous les ad-bloqueurs par défaut, et maintenant ils ont l'idée de autoriser trois visionnages de vidéos sans pub quand tu as un adblocker, et au bout de la troisième, on te dit bon, bah maintenant tu t'abonnes à YouTube Premium ou tu regardes de la pub, mais ton adblocker il fonctionne plus. Donc c'est une sorte de modèle un peu médian, si tu veux, mais sachant que moi je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur sur YouTube, là, elle est devenue épouvantable quoi, avec ouais. La pub. Et on en revient un petit peu au début de notre conversation avec Twitter. Je trouve qu'en fait, ces grands services technologiques, alors on est complètement d'accord sur le fait que si c'est gratuit, c'est toi le produit, la pub, c'est ce qui fait vivre ces groupes-là. Il ne s'agit pas de remettre ça en question. Nous, on bosse dans les médias traditionnels, donc on est bien placé pour savoir que la pub, voilà,
c'est le nerf de la guerre.
C'est
hein.
le nerf de la
Quand
guerre.
Quand tu fais partie d'un média commercial, c'est comme ça.
C'est ça. Mais sauf que Google, YouTube, etc., se sont partis sur une base où, en gros, on t'offre un service gratuit. Et on te donne un petit peu de pub à regarder, et c'est ta donnée personnelle en fait qui sert à monnayer le truc. Mais là, en fait, tu as un service qui est gratuit, complètement dégradé. Et si tu veux le service premium, le service normal, en fait, il faut payer le premium. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est une sorte d'inversion des valeurs, ouais. Où maintenant, c'est si tu payes pas, t'auras un truc qui sera vraiment beaucoup beaucoup moins bien quoi. C'est quand même problématique.
Petit bémol. Quand tu souscris à YouTube Premium, tu as aussi YouTube Music. C'est-à-dire oui. que ça se substitue à un Spotify, à un Deezer, à un Apple Music. Donc, voilà, moi, je connais plein de gens hein, qui en ont marre, parce qu'en plus, ça t'enlève la pub aussi sur ta télé, tu vois, à partir du moment où tu te logues avec ton compte YouTube Premium. Et tu as donc accès à toutes les vidéos YouTube et aussi à YouTube Music, qui est un catalogue qui est équivalent à celui de Spotify, etc.
Ouais, je suis
donc,
d'accord.
Voilà, à réfléchir, c'est plutôt malin de la part de YouTube.
Ah, mais c'est malin de leur part, mais si tu veux, je trouve qu'il y a ce truc où ils essayent, en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de dissuader, en
Bien
fait,
sûr.
Les gens
ouais.
qui sont. Non,
il faut payer.
C'est ça, ces gens. Ah, mais alors, tu veux pas payer ? Bon, on va te mettre encore plus de pubs. Et là, ça devient quand même, je trouve. Tu regardes une vidéo de 5 minutes, 10 minutes.
Mais on sent que.
Tu vas avoir 3 pubs, 2 pubs inskippables au début, une ou deux au milieu, une à la fin, t'es bon, bah ok.
Mais on sent que, voilà, la fête est finie chez Google.
Ouais.
C'est une machine maintenant, Google, qui doit cracher du cash. Elle est moins généreuse qu'avant, ça se voit. Hein, y a plein de services qui ont été réduits, qui ont été limités, et on voit que ben, voilà, YouTube doit coûter très cher en bande passante. Il faut qu'ils gagnent de l'argent et ils augmentent la pub. Pour terminer, il nous reste 2 minutes, parle-nous de cette montre connectée vivante. Est-ce que tu l'as testé ?
J'adore. Non, j'ai pas pu la tester. Alors, c'est un prototype qui vient de l'université de Chicago. Donc, on est vraiment dans les laboratoires pour l'instant. Hein. Donc, j'espère pouvoir la tester à un moment. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment un prototype pour l'instant. Ça ressemble à une montre dans le sens où tu as un cadran, un bracelet et des fonctionnalités d'une montre. Hein. Donc, ça te donne l'heure, ce qui est mieux quand même pour une montre. Et ça t'analyse, par exemple, le rythme cardiaque. Mais c'est un petit peu plus gros quand même qu'une montre parce qu'il y a pas mal d'électronique à l'intérieur. Et surtout à l'intérieur, t'as un organisme vivant, t'as un blob en fait. Et c'est lui qui
fait vivant.
Ouais, c'est ça, c'est une montre vivante. C'est-à-dire que cette montre, elle fonctionne grâce à un blob. Alors un blob, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un organisme unicellulaire.
Tu vois, si on était le 1er avril,
non, mais
alors là,
non, c'est vrai, t'as raison.
Je te dirais, ok, Anthony, c'est bon, on a compris ton truc.
Ouais, mais en fait, non.
On n'est pas le 1er avril.
C'est très sérieux. Et tu vas voir, ça va même aller encore plus loin que ça. Donc le blob, c'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas un champignon, c'est une sorte de mousse que tu trouves dans les sous-bois. C'est un truc hyper bizarre qui fascine les scientifiques. Non, mais c'est qui a des propriétés extraordinaires.
C'est un peu comme le champignon d'ailleurs, hein, qui est entre deux.
Un peu, ouais. Mais c'est pas considéré comme un champignon. Mais t'as raison, c'est un organisme. Enfin, c'est vivant. Ça conduit l'électricité, ce qui est pratique dans un circuit. Et surtout, ça optimise son chemin. C'est-à-dire que ça peut se sortir d'un labyrinthe, par exemple, un blob. C'est extraordinaire, tu vois. Et donc, là, ils s'en servent, en fait, pour fermer le circuit de la montre, tout simplement. Sauf que pour que ça fonctionne, tout ça, ta montre, tu vas pas la recharger, tu vas la nourrir, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, tu vas ouvrir le petit compartiment, t'as ton blob, voilà, et tu lui donnes de l'avoine et de l'eau. Et à partir de ce moment-là, il peut fonctionner. C'est un peu comme les Tamagotchi, tu sais, à l'époque. Mais sauf que là, c'est vivant et c'est pas un truc purement électronique. Mais ça peut prêter à sourire, mais les créateurs de ceux qui ont monté cette expérience disent ça pourrait nous aider à mieux lutter contre la pollution électronique. En gros, l'idée, c'est de créer un attachement émotionnel avec ta montre, que t'aies moins envie de l'acheter parce que voilà, tu as ce lien émotionnel avec le blob qui est un organisme vivant. Voilà, pourquoi pas.
La montre blob. Écoutez, c'est avec ça qu'on termine ce De quoi je me mêle. Merci Anthony.
Merci François.
Toujours un plaisir de te retrouver. On sera là la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Radio, télé, podcast et replay. Et rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, très bon week-end.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et pour cette deuxième partie de ce De quoi je mêle, j'accueille avec plaisir Lionel Paris. Salut Lionel.
Bonjour François.
Notre monsieur réseau et nouvelle technologie de quoi je me mêle.
C'est ça.
S'il n'y a pas une box et un fil qui va avec, pour Lionel, il n'est pas heureux. Et là, autant vous dire que cette semaine, il est venu avec plusieurs box, donc il est très heureux. Et on va s'intéresser à un sujet, alors que moi je trouve hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, on veut toujours plus de débit, on veut une connexion Internet de qualité, à la fois en mobilité, on en parle souvent avec la 4G, la 5G, le Wi-Fi aussi.
Bien sûr.
Mais quand on est à la maison, voilà. La fibre optique est en train véritablement de s'imposer. Je crois qu'il y a eu un switch d'ailleurs l'année dernière entre les connexions ADSL et fibre. Hein. Je crois qu'il y a plus de fibres de connexion fibre aujourd'hui que d'ADSL.
C'est ça.
On avait évoqué ensemble aussi l'arrêt de l'aide du cuivre.
C'est ça. Donc qui est toujours prévu pour fin 2030 et il continue. On a encore 30% grosso modo de la population française qui va migrer sur la fibre les prochaines années.
Et on se dit, maintenant on a la fibre, c'est réglé, tout le monde est content, on a de super débits et tout ça et tout ça. Alors c'est vrai, mais pas tout à fait, parce que en fait, derrière cette technologie fibre se cachent plusieurs standards, plusieurs technologies qui ont des avantages et des inconvénients. Et tu vas nous expliquer tout ça.
Mmh. Parce que, si tu veux, on a un petit peu gommé tous ces aspects technologiques. Parce que quand la fibre est arrivée, c'était tellement énorme l'écart en débit que tu peux recevoir à la maison entre l'ancien ADSL, je vais schématiser, mais on est passé un peu de 5 mégs à 500.
Ouais, c'est ça.
Du jour au lendemain. Et donc, c'était tellement énorme, si tu veux, qu'au début, la fibre a été le mot générique, si tu veux, pour symboliser cette puissance que tu avais à la maison. Quoi.
Je me souviens chez toi, d'ailleurs, parce qu'avant, pendant longtemps, on en parlait, tu n'avais pas la fibre, tu avais la DSL, tu avais un ADSL dégueulasse.
5 mégas, c'est moi.
Tu avais 5 mégas pour toute ta famille, autant vous dire que quand on a 5 mégas à partager pour toute la famille, ce n'est pas terrible.
Non.
Et puis,
j'avais beau faire des speed tests, ça ne change rien.
Et d'un coup, paf, tu as le tsunami qui arrive, il y a un gars qui t'installe la fibre, et là...
Voilà, je suis passé à 1 giga.
Voilà.
Donc ça, c'était le début du lancement de la fibre. Et donc, les années passent, et depuis un an, si tu as fait attention, tous les FAI ont proposé des offres supérieures à 1 gigabit.
C'est vrai. Aujourd'hui, le gigabit, c'est le standard.
C'est ça.
Enfin, c'est la connexion haut de gamme, on va dire.
Oui, parce que tu démarres sur les FAI entrée de gamme, tu vas démarrer à 300.
Ouais.
Tu vois, ce qui reste,
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est plus du bridage, c'est-à-dire que si tu payes un peu moins, tu as moins de débit.
Et on limite un peu ton tuyau,
etc.
Et on va dire que comme le gig commence à être, si tu veux, le standard. Mais depuis un an, ça a démarré en avril 2022, et tu as maintenant sur le marché des offres supérieures à 1 gigabit. Donc là, il n'y a pas eu cet effet d'escalier qu'on en a eu de 0 à 1 giga. On est passé directement, boum, 2 et au-delà.
C'est ça.
Mais il y a beaucoup de subtilité là derrière.
Parce que, tu vas nous expliquer, dépasser le gigabit, c'est pas anodin, en fait, pour les opérateurs télécoms.
Hein, c'est clair.
Et puis, il y a des zones où ça passe pas. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. En gros, il y a trois technologies fibres,
C'est ça. Tu as trois technologies aujourd'hui qui existent sur le sol français. Et elles ont un point commun, c'est ce qu'on appelle le PON. Donc, le PON, c'est un acronyme qui veut dire Passive Optical Network. ça symbolise tout à fait la fibre, en fait, et c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'alimenter électriquement ta fibre dans son chemin. Elle est alimentée au départ.
Donc depuis, l'armoire où elle est connectée.
Voilà. Et elle est alimentée électriquement quand elle arrive chez ta box, chez toi.
Basta.
Fin de l'histoire.
D'accord.
Donc il n'y a pas d'alimentation électrique sur les kilomètres qu'elle va parcourir.
C'est-à-dire que les deux sources électriques qui sont au départ et à l'arrivée suffisent.
C'est ça.
Pour que ça fonctionne.
C'est toute la beauté d'ailleurs, enfin, au-delà de l'atténuation, c'est la beauté de cette technologie.
Ouais, la fibre optique, rappelons-le, hein, c'est donc un fil ultra fin dans lequel passe de la lumière.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Où sont les caméras, j'en ai ramené
un
là.
Voilà, vous êtes avec nous en vidéo, fin. C'est tout fin.
Bon, et fragile.
Voilà, c'est fragile. Et puis, il ne faut pas le tordre, parce que si tu le tords, la lumière passe plus, ça se pète, etc.
Non, ça se casse si on le courbe un peu trop, c'est très fragile. Et donc, de ce tronc commun, tu as trois technologies, en fait. Et ces technologies-là, au-delà de leur nom, qui est un peu compliqué, vont te donner des débits, en fait. Donc, tu as ce qu'on appelle le GPON. Et donc là, le G, c'est pour gigabit, en fait. Donc ça, c'est la toute première technologie. Technologiquement, on peut faire jusqu'à 2,5 gigabits en trafic descendant et 1,2 en montant. Et un lien qui part du fournisseur d'accès va pouvoir t'alimenter 64 habitations ou 64 abonnés.
OK. Voilà,
ça, c'est la première et c'est la plus répandue. Tu en as une deuxième au-dessus de ça qui s'appelle le 10G EPON. Alors là, 10G, c'est facile, 10 gigabits, Ethernet. Donc là, on a un débit max de 10 gigabits en descendant et on est toujours à 1,2 en montant. Et là, petite subtilité, un lien fibre de l'opérateur peut te couvrir 32 abonnés.
D'accord, donc ça nécessite beaucoup plus d'installations.
Oui.
On divise par deux le nombre d'abonnés avec cette technologie.
Tout à fait. Okay. Et en plus, on augmente le débit par 10, parce qu'on passe de 1 gig, de 2 gigs à 10 gigs.
On est d'accord.
Et la troisième, qui est la plus évoluée aujourd'hui sur cette génération de fibres, c'est le XGS. Donc là, c'est du 10 gigabits symétrique. On va être capable d'obtenir 10 gigabits en descendant, mais surtout en montant, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, tu as ces trois technos aujourd'hui qui sont dispo sur le sol français.
Et toutes les trois sont dispo sur le sol français.
Oui.
Mais là où après on rentre dans une subtilité, c'est que certains opérateurs sont compatibles avec ces technologies ou l'adoptent.
C'est ça.
Ou pas.
C'est ça. C'est-à-dire que le choix de ton FAI, finalement, au-delà du FAI lui-même et de l'offre que tu achètes, va te conditionner une technologie fibre. Parce qu'ils utilisent tous, et si tu veux, on va pouvoir les parcourir ensemble. Mais comme tu le disais, contrairement aux box ADSL, toutes ces offres au-delà d'un gigabit, elles vont avoir une capacité commune, c'est qu'elles vont très rapidement saturer toutes les box. Parce que là, on sort du standard, entre guillemets, qui est installé chez tout le monde, qui est le port gigabit filaire ou le Wi-Fi traditionnel. Donc c'est là, il va y avoir un deuxième niveau de subtilité, c'est-à-dire le débit, c'est bien, comment on le sort de l'équipement qui est la box.
Et c'est ça. Parce que 1 gigabit... Pourquoi on parle de ça ? Parce que finalement, aujourd'hui, on est d'accord que pour 99% des gens, 1 gigabit, ça suffit amplement, même pour une famille, tu vois ?
Oui,
t'as un bon Wi-Fi.
Tu vas pas arriver à saturer, enfin, tu peux arriver à saturer une gigabit
c'est compliqué
si tu
quand
travailles
même.
À la maison.
Ouais, voilà.
Encore, ça devient intense.
Et même la première source de saturation, ça va être ton Wi-Fi.
La plupart du temps, oui.
On est d'accord.
Et c'est pour ça qu'il faut absolument compenser ces problèmes de Wi-Fi avec d'autres équipements.
Rajouter des
câbles, etc. Là, j'avais ramené aussi un Orbi. Mais quand on va souscrire à ces offres-là, c'est aussi ajouter un niveau de subtilité. C'est-à-dire que les fournisseurs d'accès tous ont été obligés de découper finalement leurs offres avec leurs box les plus récentes qui sont liées à ces nouvelles offres qui sont sorties il y a un an, qui, elles, sont capables, à peu près, on va le voir, de sortir ce débit, et les anciennes, qui sont absolument pas du tout capables de te sortir de toute façon au-delà d'un gigabit.
Ouais, c'est ça. Donc, il faut une box récente, d'accord ? Il faut que l'équipement de l'opérateur télécom soit récent aussi, compatible. Hein, j'imagine que le XGS PON, ça nécessite véritablement des installations.
Ouais, c'est ça. Après, si tu veux, on peut découper par fournisseur d'accès.
Ouais, c'est pas mal ça.
Si on prend le cas de Orange, ils ont choisi la technologie GPON. Donc, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, finalement, quand tu compares tout le monde, Orange a les offres les moins rapides du marché. Et donc, est apparu, je ne sais pas si les gens ont fait attention, dans la sélection d'offres que tu peux prendre, tu as des offres à 2 gigabits, et puis tu as un petit mot qui est apparu qui s'appelle « partager ». Et alors, tu te dis, attends, je suis en fibre, je partage avec qui, mon voisin, c'est quoi l'histoire, en fait?
Ouais, c'est quoi pourquoi, ce débit partagé?
Tout d'un coup, on me monte mon offre à 2 gigabits, ouais, et on me dit que mon débit est partagé. Eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que la box que tu utiliseras dans cette offre-là, qui est peut-être une box d'ancienne génération, n'est pas capable de te sortir, que ce soit en Ethernet, sur les ports qui ne sont que en gigabit, ou sur le Wi-Fi, elle n'est pas capable de te sortir ce débit.
Elle n'est pas capable de te sortir 2 gigas.
Tu fais un speed test, tu n'arriveras pas à sortir ton 2 gigas, puisque ni le Wi-Fi, ni le filaire va te permettre de le sortir.
Mais alors, et donc, pourquoi ils écrivent 2 gigas?
Parce que ta ligne est technologiquement capable de monter à 2 gigas. Par contre, tu pourras utiliser cette puissance partagée sur plusieurs périphériques. C'est ça la subtilité.
Je ne comprends pas.
En fait, le 2 gigabits partagé...
Parce que si ta sortie, tu n'as qu'un giga...
Oui, c'est, d'où ça, tu peux utiliser 1 giga sur une machine,
ah, d'accord,
et 1 giga sur une autre.
Donc tu vas avoir deux fois 1 giga.
C'est ça, entre guillemets. Tu mutualises cette ligne directement sur la box d'ancienne génération.
Okay.
Et donc après apparaît un autre forfait où là on te dit 2 gigabits dédiés. Et là, pourquoi dédié ? On prend le cas de la Livebox X.
Qui est la toute dernière.
Qui est la toute dernière.
Toute mimi, d'ailleurs.
Et qui est assez intéressante parce qu'elle ajoute, en fait, ce port Ethernet en 2,5 gigabits, qui donc n'a pas de limitation par rapport à la capacité de ta ligne.
D'accord.
Elle intègre aussi le Wi-Fi 6E, qui, lui non plus, n'a pas la moindre limitation, est capable de sortir 2,4 gigas.
C'est-à-dire que là, on se retrouve quand même avec une box aux technologies récentes, où si je me branche, si je souscris l'abonnement à 2 gigabits, j'aurai vraiment 2 gigabits.
Tu fais un speed test sur une machine.
J'ai un téléphone compatible Wi-Fi 6E. Bon, déjà, il faut en trouver, c'est pas facile. Mais admettons qu'on en trouve un dernier Samsung, etc.
Ça va changer en septembre.
Espérons-le. là, j'aurai des débits supérieurs aux gigabits.
C'est ça. Sans problème, directement, depuis ton équipement. Et c'est ça, cette notion que tu as aujourd'hui, et finalement, cette différenciation que tu as dans les forfaits. Donc maintenant,
ça c'est Orange.
Et très intéressant ce port qui a été rajouté en filaire parce que ça permet d'y connecter plusieurs équipements pour peu que tu rajoutes un switch compatible de 2,5 gigabits. Ça te permet de couvrir des applications NAS, c'est très rapide, Mac et compagnie. Et puis après le Wi-Fi 6E, où il suffit ou il ne suffit pas. Et encore une fois, on va utiliser ce fameux port pour sortir sur d'autres équipements réseau, comme un Orbi, et là, tu vas, boum, diffuser ton Wi-Fi dans la maison.
Là, t'exploses tout.
Voilà.
On est d'accord.
Et si tu n'as pas ce port-là, t'es bloqué, en fait. Donc ça, c'est Orange, une cohérence. Moi, je dirais, c'est pas les offres les plus rapides du marché, mais je trouve qu'il y a un bon niveau de cohérence sur leur
Puis 2 gigas, c'est quand même pas mal.
Et ils parlent de dévoiler sur le XGS PON. Ils ont fait des tests en Espagne. A priori, le futur du réseau cube d'Orange. Donc là, ils vont passer directement du GPON, le niveau 1, au XGS PON, le niveau 3.
Alors après les autres opérateurs.
Après on a Bouygues, j'ai pas ramené de box aujourd'hui parce que malheureusement ils télétravaillent, ils avaient besoin de leur box, mes voisins. Et du coup là t'as une offre assez équivalente à celle d'Orange. Ce qui est très intéressant avec la box de Bouygues, c'est qu'au lieu d'avoir mis un port à 2,5 gigabits, eux ils ont directement mis un port à 10 gigabits en Ethernet.
Ok.
Ce qui est aussi contradictoire puisque leur technofibre
n'est pas compatible.
Ne va pas au-dessus de 2 gigabits. Donc l'offre maximum qu'on va avoir, c'est 2 gigabits en descendant, 900 en montant, ce qui est déjà un petit peu plus mieux disant que Orange sur l'upload, mais c'est la même technologie. Leur box est un petit peu mieux équipée en termes de réseau filaire. Ce qui est très intéressant dans la box de Bouygues, c'est qu'ils promettent une évolutivité sur le futur. C'est-à-dire que l'entrée fibre de la box, c'est pas une entrée fibre directe comme on peut le trouver ici, si tu veux.
Ouais.
C'est via un module, comme on l'avait sur les anciennes box, dont une que j'ai ramenée ici.
Un module donc externe.
Un module fibre externe qui n'est pas intégré à la box et qui va donc te permettre dans le futur de basculer sur une nouvelle technologie.
Okay. Donc, et là, on pourrait peut-être en théorie monter jusqu'à 10 gigabits tout en conservant la même box.
C'est ça, c'est ce dont parle Bouygues. On n'a pas de confirmation, mais ils évoquent la possibilité d'une migration vers la technologie XGS PON qui leur permettrait d'avoir 10 gigabits dans les deux sens.
Okay.
Et on a une box qui serait capable tout à fait de redistribuer avec cette sortie 10 gigabits. Assez intéressant.
Ok, ça c'est Bouygues.
Ça c'est Bouygues. Ensuite, on part sur
SFR.
SFR.
Les petits amis d'SFR qui, rappelons-le, font partie du groupe Altice. Hein,
et qui vous
propose cette émission.
A une offre très intéressante parce que c'est le premier fournisseur d'accès qui a deux technologies parallèles sur, sur son réseau. Donc, ils ont à la fois l'offre historique avec du GPON, ouais. Là, tu fais du 2 comme tous les
comme
autres.
Orange, comme Orange ouais. Et comme Bouygues.
Et ils ont lancé, l'année dernière, quand ces offres au-dessus de 10 gigabits sont sorties, ils ont lancé une offre aussi en XGS-PON. Donc, c'est le premier FAI à utiliser non seulement deux réseaux simultanés, et c'est aussi le premier FAI à utiliser ce fameux réseau fibre qui est capable de faire du 10 gigabits dans les deux sens. Donc, c'est extrêmement innovant parce que c'est le summum de la technofibre.
Ouais, on est d'accord.
D'où cette offre de SFR qui permet d'avoir 8 gigabits en trafic descendant et je ne sais plus combien.
1 giga, non.
C'est 1 giga en montant. Donc là, on est déjà... Tu as vu les cartes techno qu'on a entre Orange, Bouygues et SFR. Déjà, on vient de multiplier le débit par 4.
Ouais. Là, ce n'est pas du débit, on va dire... équivalent en download et en upload, malgré tout. On a 1 gigabit.
C'est pas
encore du vrai XGS-GPON.
C'est pas encore du vrai symétrique, mais technologiquement, c'est possible. Okay. Tu as le réseau en place. Alors, il y a une box qui n'est pas celle que j'ai ramenée ici, qui est la, celle-ci, c'est la 8. Et donc, il y a le modèle 8X. Et donc, qui a aussi un emplacement de ce type-là.
Et tu branches.
Tu branches ça dessus et on va pouvoir sortir en 10 gigabit
wow.
En filaire, assez simplement, puisqu'il est fourni avec la box. Sur n'importe quel équipement, et donc tu profites de ta ligne de 8 gigas.
8 gigas, ça dépote hein, quand même.
Alors, bah, j'ai pas eu l'occasion. Alors, c'est l'inconvénient de cette offre, parce qu'elle n'est encore pas assez disponible sur le réseau français, parce qu'il faut déployer.
C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'on se dit, comme la DSL, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des équipements locaux qui soient upgradés et qui soient mis à jour.
C'est ça.
Et donc, typiquement, là, cette offre XGS-GPON, elle n'est pas disponible partout en France. Il faut qu'elle SFR upgrade son réseau petit à petit.
Alors, ils le font hein, depuis un an qu'ils ont annoncé. Ouais. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait déjà un nombre de raccordements qui était assez significatif. Mais on repart dans une dynamique où malheureusement tu dois mettre à jour la remorque que tu as dans la rue.
Donc ça nécessite des investissements.
T'as un investissement, voilà. Alors, ils ont toujours les anciennes offres en GPON.
Ouais.
Et si tu as de la chance, tu es éligible à une offre XGS-PON. Autant te dire que moi, dès que c'est possible, tu connais mon atout sur les speed tests.
Et là, tu mets un bon routeur Wi-Fi derrière et ça dépote un max.
Ça y est, on va commencer à utiliser le Wi-Fi 6E et bientôt le 7 avec des débits pareils, quoi, c'est évident.
Incroyable. On n'a pas parlé de Free.
Alors voilà, Free, le dernier. Donc,
qui a été le premier à proposer une offre 8 gigas, hein, si mes souvenirs sont bons. Hein.
Tout à fait.
Donc, avec la Freebox Delta.
Exactement. Donc eux, ils ont basculé tout de suite sur les offres 10G et PON. Donc là, on est capable, encore une fois, avec ces offres-là, d'atteindre 10 gigas en trafic descendant, mais on va être limité à 1 gigabit en montant.
Alors, ce n'est pas du vrai 10 gigas, je crois. Hein. On est plutôt à 8 aussi. Hein.
Oui, voilà. Alors, dans leurs offres aujourd'hui commerciales, ils ont aussi du 8. Ils ont d'ailleurs deux offres. Tu as une offre avec même pas la Delta, qui est la POP.
Ouais.
Où là, on n'a que 5 en débit descendant. Et 700 partagés. Mais encore une fois, tu es limité par ta box. Parce que la POP n'a qu'un port 2,5 gigabits.
D'accord.
Et elle n'est pas non plus... Elle a un Wi-Fi qui est 6, donc tu ne vas pas l'utiliser non plus en Wi-Fi. Donc ça, c'est déjà... Et même sur la Delta, où là, c'est vraiment pas simple aujourd'hui...
Parle bien après, à côté du micro, hein, pour qu'on t'entende
bien. C'est pas simple aujourd'hui d'utiliser la puissance, parce que tu es obligé, on retrouve toujours, hein, quelles que soient les technologies là, dont je parle, on retrouve toujours ces fameux modules. Ouais. Qui sont des modules SFP que tu dois insérer dans ces box. On n'est pas sur de l'Ethernet traditionnel, donc c'est compliqué, le commun des mortels ne peut pas l'utiliser. Et là, dans le cas de Free, on ne peut même pas mettre un module Ethernet traditionnel.
Donc il faut acheter un adaptateur.
On est obligé d'utiliser un adaptateur qu'on va relier pour se sortir de la fibre et arriver à sortir de l'Ethernet.
D'accord.
Donc tu as un coût, tu as un investissement qui coûte à peu près 150 euros aujourd'hui.
En plus, d'accord.
À rajouter sur la box pour pouvoir utiliser ce débit monstrueux. L'intérêt de l'offre Free, c'est qu'elle est bien disponible sur le territoire.
Ah d'accord. Eux, ils ont upgradé.
Dès le départ, ils sont partis. Ils n'ont pas eu de période de transition chez GPON. Ils sont passés directement là-dessus. Et donc, l'offre est bien disponible. Par contre, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, moi, j'ai dû chercher énormément pour trouver ce genre de technologie. Ce n'est pas simple. Et puis, il faut bien vérifier qu'on ait aussi la dernière version parce qu'elles ne sont pas toutes Wi-Fi 6E. Enfin bon, il y a tout un déroulé à faire pour pouvoir utiliser. Donc, tu l'as vu, quelle que soit l'offre aujourd'hui, il n'y a pas finalement, dans ces offres au-dessus d'un gig, ce n'est pas idéal. Ou tu n'as pas l'offre la plus rapide du marché, ou tu l'as, mais le sortir, ça devient compliqué. Bon,
il y a. Ouais, c'est ça. Et puis par exemple, voilà, tiens, je m'équipe d'une box, alors ou SFR ou Free ou même Orange avec 2 gigabits. J'ai la bonne connectique, etc. Mon PC n'est pas compatible en fait. Je parle même pas du Wi-Fi. Je parle là
du filaire.
Du filaire.
Voilà.
Alors, parce qu'en général, c'est du gigabit, c'est du câble gigabit.
Le
qu'on
gigabit
a, c'est du gigabit réseau.
C'est du gigabit réseau qui est le plus répandu aujourd'hui. Tu as du 2,5 gigabit qui arrive de plus en plus. Ça fait deux ans, trois ans où on en a de plus en plus sur les cartes mères, sur les PC. Ouais. Ça devient le entre guillemets le dénominateur commun.
C'est-à-dire que si j'achète un PC récent. Je peux jeter un œil sur les spécificités réseau et voir si ça monte à 2,5
gigas. Et tu auras en toute logique du 2,5 gigabits.
D'accord.
Ça, c'est une chose
qui est
sûre.
Mais j'aurais pas du 10.
Tu n'auras pas du 10 par défaut. Là, il faudra rajouter une carte. Tu as certaines machines, mais très haut de gamme, ou certaines cartes mères, où tu le vois arriver. Mais là, on est vraiment sur des machines très, très haut de gamme.
D'accord.
Mais typiquement, les derniers Mac, les Mac Studio et les Mac Pro, qui ont été lancés là récemment, c'est du 10 gigabits en filaire.
Ah, c'est du 10 gigabits.
Et c'est déjà le cas chez Mac depuis il y a une génération, ils avaient déjà passé le pas, ils étaient en 10.
Ok, d'accord.
Donc, bon.
Admettons que j'ai pas un équipement hyper récent, je suis en gigabit.
Oui.
Je vais être obligé d'acheter un matériel supplémentaire, de me brancher quoi sur de l'USB-C.
Alors, très
sur
simple, quel port voilà, tu l'as dit, ordinateur portable, on va utiliser de l'USB-C. On aura derrière, on a vu ensemble. Thunderbolt 3 ou 4, qui va être capable tout à fait de véhiculer cette typologie de débit. Et tu auras des petits adaptateurs avec un port réseau 2,5, d'accord. 5 ou 10. Ça existe. Ça se trouve très facilement. Un PC fixe, aucun problème. Une carte PCI Express qu'on insère dans le PC. Sortie Ethernet 10 gigabits et ça te fait 1, 2, 5, 5 et 10.
En revanche, si je passe en Wi-Fi, que je suis en Wi-Fi 6E, là, sans câble, avec un équipement, on va dire, 2 gigabits, je monte à combien en débit ?
Ah ben là, tu peux maxer le Wi-Fi 6E, c'est-à-dire une connexion à 2,4 gigabits sur un mobile.
Ah, carrément.
Puisque ta ligne n'est plus un facteur limitatif.
D'accord.
Donc du coup, par contre, attention, et là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut bien évidemment utiliser des équipements, là j'ai un Orbi dans la main, avec un port qui monte jusqu'à 10, parce que la logique dont on vient de parler, elle va se propager jusqu'à cet équipement-là.
Ouais, c'est ça.
Il faut sortir de la box avec un débit au-delà d'un giga et arriver à se connecter sur le Orbi, et lui, du coup, n'a plus de facteur limitatif, puisqu'il peut propager la puissance de ta fibre en Wi-Fi. Donc,
c'est hyper intéressant.
Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était bien qu'on puisse en discuter.
Mais tu vois, franchement, on apprend plein de choses. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 3 technologies de fibre, etc. On voit que ça avance, c'est cool. Même si, je le disais tout à l'heure, l'immense majorité d'entre nous, la connexion fibre qu'on a à la maison nous suffit la plupart du temps. Et là, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore la fibre et qui se disent, ils partent de 10 gigabits.
Mon Dieu.
Alors, je suis encore à la DSL. Écoutez,
ça arrive.
Suivant le plan très haut débit, très bientôt, vous aurez vous aussi la fibre. Hein.
Ça arrive.
C'est ce que le gouvernement nous promet. Merci beaucoup, Lionel.
Merci, François.
Super intéressant, tout ça. Voilà. Et on se retrouve très vite.
Oui.
Passe de bonnes vacances d'ici là.
Mais toi aussi.
On se retrouvera à la rentrée. Peut-être pour évoquer le Wi-Fi 7, on verra. Enfin, peut-être qu'il y aura des nouveautés.
Il y aura des choses à la rentrée.
Et merci en tous les cas de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine, bien évidemment, pour le week-end du 14 juillet. Ça sera l'avant-dernier de Quoi je me mêle avant les vacances. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à la semaine prochaine, donc.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.